Sud Radio, regard de femme.
Avec le regard de l'avocate Caroline Grima-Pontoise. Bonjour Caroline.
Bonjour Laurence, bonjour à toutes et tous.
Avec le regard de Michel Viennès, président de l'association Regard des femmes à Lyon. Bonjour Michel.
Bonjour Laurence, bonjour Caroline.
Alors, bonjour, faut commencer. On va revenir sur l'entretien du président Macron dans le magazine Elle qui a fait polémique hier sur le réseau. Il y a même eu le hashtag balance ton top à propos du crop top, vous savez, le short court. Emmanuel Macron s'est prononcé pour, je le cite, une tenue décente exigée à l'école. Et franchement, la notion d'indécence, elle n'a pas trop bien passé sur les réseaux. Ça vous a choqué ou pas, Michel?
Alors moi, je voulais rappeler qu'il s'agit donc du président de la République qui parle de l'école de la République, dont la mission est de former les citoyennes et citoyens en devenir. Il est donc interrogé sur les croc-tops, donc c'est haut. Il rappelle que la liberté n'est pas de faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Ça, c'est le caprice. Il précise aussi qu'on est libre ensemble, dans l'espace commun, avec des règles de vie communes. Il fait bien la distinction entre la maison ou chez des amis, où ça, il n'y a pas de problème, mais à l'école, il est plutôt, d'ailleurs il dit bien, je suis plutôt, donc il n'impose rien du tout, il est plutôt, je sais précisément, parce que je pense que c'est important, pour une tenue décente exigée aussi bien pour les filles que pour les garçons. Donc, et il poursuit d'ailleurs, je ne suis pas pour un uniforme, mais tout ce qui renvoie à une identité, une volonté de choquer ou d'exister n'a pas sa place à l'école. Mmh. Et qu'il y a des principes à enseigner aux ados. Et ceci dans le contexte de son interview, dans lequel il reprend précisément, sur l'universalisme, qu'il refuse ce racialisme dont on nous rebat les oreilles, et où on assigne à nouveau des personnes à une race, blanc ou noir. Tout cet enfermement des personnes dans une identité héritée ou un particularisme séparatisme. Ouais. Et donc, et en particulier, il dénonce ce qui est extrêmement grave et que nous-mêmes, sur cette antenne, aussi avec Caroline, on dénonce, c'est-à-dire l'essentialisation tribale, cette woke ou cette cancel culture qui fait que certaines personnes n'ont plus le droit de parler, qu'on n'est plus dans le, comment dirais-je, l'expression que j'aime bien, moi, rien d'humain ne m'est étranger, mais au contraire, dans un espèce de séparatisme des personnes. Et il le dit d'ailleurs très clairement, l'intersectionnalité fracture tout.
On va laisser réagir à ce sujet aussi, Caroline Grima. Vous partagez le point de vue de Michel ou...
Je le partage en partie, mais pas totalement.
Allez-y alors.
Nous sommes dans un sujet, dans un contexte où on parle pour la plupart du temps d'adolescentes. Oui. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait derrière le fait d'arborer ce type de vêtements une volonté véritable de choquer, de faire valoir une identité particulière, etc., etc. Je pense qu'on est beaucoup plus dans justement une uniformisation de la tenue de ces jeunes filles qui reproduisent ce qu'elles voient tantôt dans les magazines, tantôt dans les médias.
Instagram, les influenceurs,
voilà, TikTok. Il faut avoir TikTok. Ça également présent à l'esprit. Et puis, moi, ce qui me dérange en deux mots, c'est systématiquement cet en même temps macronien qui, une fois de plus, a trouvé son illustration ce jour-là et dans cette interview, parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai souvenir, pour parler de décence et d'indécence, d'une mise en scène, comme il peut le faire d'ailleurs très souvent, de notre président de la République qui avait été pris en photographie avec deux jeunes hommes qui l'entouraient, faisant des doigts d'honneur chacun de leur côté, et il me semble qu'à l'époque, cela ne lui avait pas paru indécent.
C'est ça,
donc il est très malvenu, je pense, de venir donner des leçons alors que soi-même, on affiche et on arbore parfois des attitudes et des messages qui vont avec, parce que lui, pour le coup, ne peut pas être taxé d'adolescent qui n'a pas conscience de ce qu'il fait, et de venir dire systématiquement ça et ça ne va pas.
Bon, voilà, vous avez rhabillé le président Macron, là.
Voilà, c'est ce que ça m'a inspiré, en tout cas.
Alors, on va passer à un autre sujet, Michel Viennès, on va commencer par vous, et un coup de cœur, vous vouliez revenir sur le verdict du procès de Valérie Bacot, qui, on le rappelle, est sorti libre du palais de justice de Chalon-sur-Saône, après avoir été quand même reconnu coupable et condamné à 4 ans de prison, dont 3 avec sursis pour l'assassinat de son mari, violent, ça c'était en 2016. Pour vous, c'est vraiment un procès historique et hors norme. Il faut revenir sur ce verdict-là qui va forcément marquer.
Oui, Parce que c'est pour moi un verdict qui est à la fois raisonnable et compréhensible. Mmh. Elle a tué, c'est un fait, mais elle avait des circonstances explicatives. Et ça, c'est aussi un fait. Alors, elle a passé un an en prison, c'est sans doute est-ce trop, hein. Bon, mais ça, c'est un autre problème. Pour moi, ce qui est important dans ce verdict, c'est que la justice a fonctionné. La cour, le parquet, le jury populaire ont fait leur travail. Mmh. Et il ne faut pas oublier que cette jeune femme, dès 6 ans, quand elle avait 6 ans, son frère l'avait agressée sexuellement. Mmh. Après, le compagnon de sa mère, qui l'a violée, enceinte mineure, elle n'a pas eu la protection qu'on peut attendre de ses parents, mais elle n'a pas eu non plus la protection de la République, dans son cas, puisque son violeur a été condamné, mais à sa sortie de prison, il est retourné dans la famille. Donc, c'est une femme qui n'a jamais été protégée par qui que ce soit, et donc, elle... face à cet homme violent, qui n'est pas non plus un bon père, parce qu'un homme violent n'est jamais un bon père, et cette spirale infernale dans laquelle elle s'est retrouvée, elle n'a eu qu'une seule issue, de faire disparaître l'agresseur, de l'assassiner. Donc, si vous voulez, je trouve pour moi extrêmement important les deux choses. C'est-à-dire qu'elle a été condamnée, mais à une peine telle qu'elle a été condamnée.
Oui, c'est ça. Bon, bah forcément, l'avocate Caroline Grima, on peut parler quoi, de verdict de clémence, un verdict symbolique, parce qu'elle risquait quand même la prison à perpétuité, non, c'est ça ?
Oui, tout à fait, c'était la peine encourue. Alors, l'histoire de cette femme, c'est, comme l'a dit Michel dans un premier temps, l'histoire d'une extraordinaire faillite du système qui ne l'a pas protégée, qui n'a pas su voir, qui n'a pas su prendre les mesures adéquates et nécessaires. Mais c'est aussi et surtout, comme vous venez de le dire, l'histoire d'un procès réussi, si tant est qu'on puisse parler de réussite dans ce dossier. Réussi pourquoi ? Parce que la volonté judiciaire qui a été effectivement de sanctionner, mais avec clémence, a rencontré la compréhension et l'assentiment du public. Et là, on est véritablement dans quelque chose de parfaitement réussi, puisque je le rappelle, la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Mmh. Hein, c'est une phrase qui figure systématiquement dans chacun des jugements qui sont rendus. Et c'est ça la véritable réussite, c'est ça le véritable succès de ce procès, c'est que tout a été pris en considération et tout a été fait à la fois pour indiquer de manière pédagogique qu'effectivement un crime avait été commis, mais qu'il y avait des circonstances, plus que des circonstances d'ailleurs, une vie entière gâchée.
Oui, alors, mais justement, pardon Caroline, la notion d'emprise, elle a été au cœur des débats. Hein. C'est compliqué à appréhender l'emprise dans une cour de justice aussi. Hein.
Ça a été en tout cas parfaitement démontré et il y a des cas d'espèce et des affaires dans lesquelles, y compris les autorités poursuivantes, c'est-à-dire l'avocat général, ce qu'on appelle le parquet, le reconnaissent. Et moi, j'invite tous nos auditeurs qui veulent approfondir un peu ces notions à s'intéresser à cette affaire qui a été également extrêmement emblématique, qui est celle de Alexandra Lange, et qui a été jugée dans le nord de la France et dans laquelle, à ce moment-là, l'avocat général avait été jusqu'à demander l'acquittement d'Alexandra Lange.
Ce qui n'a pas été le cas là.
Voilà. Hein. Donc,
et pardon au nom de la République.
La justice est capable justement de prendre en compte tous les éléments qui gravitent autour de ces affaires terribles, et notamment la notion d'emprise.
Ouais, c'est ça. Preuve en tout cas quelque part que les mentalités aussi, et la justice suit ça aussi, les mentalités ont évolué aussi, hein, et heureusement, oui, bien sûr.
Les lois le permettent, puisque c'est là aussi. Il faut d'abord faire voter les lois, et puis ensuite, parce que la justice est là pour appliquer la loi. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est si important, lorsque nous agissons pour faire modifier les lois, en tant qu'association, souvent on nous dit à quoi ça sert, et puis en fin de compte, on s'aperçoit qu'elles sont appliquées après, et je pense que en particulier par rapport aux violences envers les femmes, il y a encore énormément à faire, mais il y a besoin de gérer cet arsenal législatif qui permet ensuite aux avocates et aux avocats de plaider afin que leurs clients soient d'une peine qui soit compréhensible.
Bon, pour terminer, un coup de gueule avec vous, Caroline Grima. Jeudi, la Turquie s'est officiellement retirée d'une convention internationale contre les violences faites aux femmes. Bon, en même temps, c'est pas une grosse surprise de la part du président Erdogan, non ?
Malheureusement, ça n'est pas une surprise, ce d'autant que c'était un projet qui était annoncé depuis le mois de mars, et que des recours avaient été formés. malheureusement, ces recours ont abouti à un échec. Et c'est toujours très intéressant, je trouve, de voir non seulement, évidemment, ce qui se passe sur notre territoire, mais également ce qui se passe s'agissant des violences faites aux femmes à l'extérieur et dans le monde, surtout quand il s'agit de pays qui ont des implications directes avec le nôtre en termes de géopolitique, etc.
Oui.
Et je trouve extrêmement regrettable cette sortie d'une convention qui porte le nom de la capitale de la c'est pas la capitale,
Ankara,
mais une des villes les plus importantes de la Turquie, convention d'Istanbul, qui existe depuis 2011, et pour des motifs qui sont absolument abjects, n'ayons pas peur des mots, puisqu'il a été indiqué que cette sortie était liée à une problématique de cette convention qui menaçait les structures familiales.
Oui, c'est ça.
Quand même absolument extraordinaire.
Ouais.
Et certains ont même été jusqu'à dire, les promoteurs de cette sortie de la convention, qu'elle faisait une promotion de l'homosexualité.
Oui, non, mais,
et que c'était de nature à porter atteinte, encore une fois, à l'équilibre des structures familiales et puis à l'équilibre de la société en général.
C'est ça.
Alors on voit à quel point, dans un pays qui, je le rappelle, compte plus de 300 féminicides l'année dernière, le sort des femmes est menacé de jour en jour. Et il est très très important de s'intéresser à ce qui se passe là-bas.
C'est ça.
Et d'essayer de prendre conscience de toutes les difficultés que les femmes de par le monde peuvent rencontrer encore à l'heure actuelle.
Voilà, un dernier mot à ce sujet avec vous, Michel Vianney, sachant que les fédérations des associations de femmes turques là-bas se mobilisent,
On travaille avec elles.
Oui,
alors je rappelle que pour la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes, Regard de Femmes, nous étions dans les discussions. Donc, et en particulier sur les fameux 4 P, je tiens à en parler, pour lutter contre les violences, c'est la prévention, la protection et le soutien des victimes, la poursuite des contrevenants, et les politiques intégrées. Et là, dans cette convention, comme dans d'autres, et c'est très rare qu'un pays sorte d'une convention. D'autant plus, pourquoi elle s'appelle Istanbul ? Parce qu'elle a un nom très long, et que c'est là où elle a été signée, où se réunissait comité du Conseil des ministres. Et donc, et surtout, l'importance de cette convention du Conseil de l'Europe, c'est qu'elle est ouverte à tout le monde. Et donc, et puis surtout, qu'elle a un organe spécialisé indépendant, le Grevio, qui est chargé de veiller à sa mise en œuvre.
Ouais.
Donc tous les pays doivent dire ce qu'ils ont fait.
C'est
c'est là. Donc à partir de tous ces pays donc qui sont signataires mais qui n'ont pas ratifié, je pense aussi à la Hongrie qui n'a pas ratifié. Donc on est sur une situation extrêmement grave sur les violences envers les femmes.
Donc à suivre. Dernier court mot, Michel.
Et donc, lors du forum Génération Égalité à Paris qui a eu lieu donc ces 3 derniers jours, eh bien justement, il y a eu une grande décision pour que tous les parquets dans tous les pays se mettent ensemble sur les violences envers les femmes.
Ouais. Merci beaucoup pour vos regards à vous deux, Michel Vianney et Caroline Grima.
Merci,
vous retrouve
beaucoup,
samedi prochain. Merci, bon week-end. Allez, à suivre dans quelques instants le journal des sports de Gaspard de Vobicourt, bien sûr, Sud Radio, il est 8h47.